Je me suis permis, je mentionne avant de me lancer dans la lecture du psaume 32 par lequel nous allons commencer, je me suis permis de laisser des exemplaires du magazine, du dernier numéro du magazine de l'Institut de Bruxelles juste sur cette table-là, si jamais cela vous intéresse. Le psaume 32. De David, cantique. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un mors et une bride dont on les orne, afin qu'ils ne te bousculent pas. Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Écoutez ce témoignage d'un jeune étudiant. Quelle ne fut pas ma surprise quand un ami chrétien qui m'avait amené à l'église m'a clairement dit que je n'étais pas chrétien. J'étais vraiment vexé et je me sentais rejeté. Profonde est ma reconnaissance envers celui qui eut la responsabilité délicate de me mettre au pied du mur. Voici ce que je me disais alors. Et quoi? Je participe régulièrement à des études bibliques, je vais à l'église, je suis plutôt d'accord avec des enseignements de Jésus, du moins ceux qui sont en accord avec ma pensée. Comment ose-t-il me dire cela? Je demandais peu après pardon pour mes péchés. Et je reconnaissais Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Une joie profonde et continuelle m'envahissait et je désirais la partager avec toutes les personnes autour de moi. Je ne voudrais pas laisser croire qu'être chrétien, c'est tout le temps la joie, la fête et quelque chose de facile, mais je ne peux nier la profonde joie qui m'a alors inondé. Quel privilège de se savoir pardonné. Ce jeune homme est loin d'être exceptionnel. Beaucoup d'entre vous témoigneraient d'une façon semblable de la joie que vous avez connue au moment de devenir chrétien. Moi aussi. Nous l'avons à un moment donné perçu pour la première fois. Il n'y a rien de tel que le pardon de nos péchés. Il s'agit de reconnaître la réalité des deux premiers versets de notre psaume, le psaume 32, verset 1er. Mauvais endroit dans les écritures là. Psaume 32, verset 1er. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute. Beaucoup d'entre nous peuvent identifier un moment ou des moments où le Saint-Esprit nous a rendus particulièrement sensibles à cette réalité que nous sommes en règle avec Dieu, que je jouis de cette bonne relation avec celui envers lequel je suis redevable et responsable, que mes fautes ne sont plus mises à mon compte. et cela couvre tout. Trois termes sont employés. On va voir ce que ça donne dans cette traduction. Transgression, verset premier, péché, faute. Tout ce que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire. Tout ce que je n'ai pas fait que j'aurais dû faire. Tout ce qui subsiste en moi, qui est offensant. Le tout, réglé, pardonné, non pris en considération à mon encontre. Ces versets sont cités par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains dans le Nouveau Testament. Et là, il parle du cœur du christianisme, de l'essentiel du message de la Bible, de l'Évangile. Chaque être humain mérite la condamnation lors du jour du jugement. Mais pour celles et ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ, la punition qu'entraînent nos fautes a été assumée par Jésus-Christ lors de sa mort sur la croix. Il a porté la punition à notre place. Bien plus, sa vie parfaite compte en notre faveur. Nos fautes sont enlevées, nous sommes considérés justes du fait d'être en Christ et nous entendrons le verdict « tu es juste » lors du jour du jugement. Et quel sujet de joie! Mais, j'ai remarqué une chose. Beaucoup de personnes témoigneraient du fait d'avoir connu cette joie par le passé. Mais aujourd'hui, et peut-être que tu es en train de dire, oui, oui, je sais exactement de quoi tu parles là, James. Je me souviens de moments par le passé où j'étais tellement émerveillé par cette bonne relation intime que j'avais découverte, que j'avais commencé à voir avec mon bon Père Céleste. J'étais ému par le bonheur d'être croyant. Je ne savais même pas comment exprimer tout ce que cela voulait dire pour moi. Comme le jeune étudiant, je voulais en parler à tout le monde autour de moi. Vous n'auriez pas pu m'arrêter. Mais aujourd'hui, je ne sais pas trop. Je suppose que j'ai perdu un peu mon sentiment d'émerveillement, de joie, de bonheur. Et peut-être que ce n'est pas ton cas, mais si c'est ton cas, j'ambitionne, durant les minutes qui suivent, j'ambitionne de te donner de retrouver le bonheur du pardon des péchés. Je vais vous livrer trois mots d'ordre qui émergent de ce psaume. Trois mots d'ordre en vue d'une vie chrétienne réjouissante en continu qui va valoir pour le reste de 2020 et au-delà. Je vais encore prier avant d'aller plus loin. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, l'Évangile est arrivé chez les Thessaloniciens avec puissance, avec le Saint-Esprit, avec une pleine persuasion. Et nous te demandons maintenant que ce soit encore le cas, maintenant. Œuvre chez des personnes qui, éventuellement, dans cette salle, ne te connaissent pas encore. Œuvre chez nous qui te connaissons, mais qui ne vivons peut-être pas pleinement le bonheur du pardon de nos péchés. Toi qui sondes les reins et les cœurs, sonde notre cœur à chacune, chacun, maintenant. Et comme l'exprime David ailleurs, que tu nous abreuves au torrent de tes délices. C'est là pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Et donc, si tu as connu la joie de ton salut par le passé, mais plus maintenant, au moins maintenant, alors ce psaume est particulièrement pour toi. Et si je devais te demander pourquoi tu ne vis plus aujourd'hui la joie, le bonheur que tu connaissais par le passé, tu me répondrais peut-être que c'est le poids du quotidien, tout ce qui pèse au jour le jour, les peines, les difficultés, les épreuves de la vie, peut-être relationnelles, de santé. Et alors, Dieu te répond dans sa parole cet après-midi, non. Non. Ce ne sont pas les circonstances qui posent problème. Tu peux connaître le bonheur du pardon des péchés au milieu de circonstances néfastes. Non, le problème, oui, il pourrait avoir d'autres facteurs que je ne mentionne pas, mais vraisemblablement, probablement, le problème, c'est le péché. Et on pourrait être tenté de répondre, non, James, attends. Ça n'est pas très cohérent. Si je suis croyant, mes péchés sont pardonnés. On vient de voir cela. Comment est-ce que le péché peut empêcher de connaître le bonheur du pardon si le péché est réglé? Eh bien, parce que être en relation avec Dieu et vivre cette relation, conformément à la question qui m'a été posée tout à l'heure, ce n'est pas la même chose. Pensez à des enfants. Un enfant de 5 ans qui vit de façon heureuse dans un foyer, il a des parents ou un parent adoptif, et cet enfant connaît la sécurité de la relation, mais ça ne veut pas dire que l'enfant puisse se comporter n'importe comment. Et si l'enfant est censé être au lit à telle ou telle heure, mais on trouve en train de jouer avec du Playmobil, après ce moment, il peut y avoir des conséquences. Pareil pour les enfants de Dieu. Nous qui sommes croyants, nous sommes en bonne relation avec Dieu, nous sommes dans cette relation qui est sécurisante, nous sommes accueillis par un père. Cette relation n'est pas en jeu, mais nous continuons à pécher. Et ça veut dire souvent discipline, correction, peine imposée par Dieu, cela de par notre conscience, de par notre expérience, de par nos circonstances. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons retrouver le bonheur du pardon de nos péchés. Il suffit de respecter 3 mots d'ordre. D'abord, la transparence. La transparence. Évitons de cacher nos péchés à Dieu. Évitons de cacher nos péchés à Dieu. Lisons à partir de la fin du verset 2. Et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Celui qui a écrit ce psaume, David, est passé par une expérience particulière. Plusieurs commentateurs essayent de nous faire croire qu'il s'agit de son double péché gravissime. Vous vous souvenez donc le meurtre d'Uri et l'adultère avec Bethsabée. Mais rien de la sorte n'est précisé. L'expérience reste extrêmement vague et il nous est important de ne pas aller au-delà du texte. En effet, David souhaite expressément appliquer son expérience à tout croyant. Il va le dire. Les principes qui sont énoncés dans ce psaume s'appliquent à toi qui es croyante ou croyant étant passé par des péchés sexuels et ou étant passé par des péchés de la langue et ou étant passé par des péchés d'amertume nourrie et ou étant passé par le péché de refuser de pardonner à quelqu'un et ou étant passé par des péchés plutôt privé, entre guillemets, connu uniquement de Dieu et de toi. Le seul critère qui s'applique, c'est que tu es conscient de ce péché ou ces péchés au point d'en être inculpé dans la conscience. Et le premier mot d'ordre, c'est la transparence. Vous voyez comment la fin du verset 2 le précise. Pas de ruse, pas de fraude. début du verset 3, ayant commis le péché en question, David a essayé de se taire. Oh, les stratégies que nous risquons de déployer pour nous convaincre que nous pouvons nous dire « Moi, bon, je n'ai rien à me reprocher. » On étouffe, on enfouit, on place sous l'éteignoir, on essaie d'oublier, on s'active, on passe à autre chose. On banalise, on minimise, on explique pour excuser. Ah, oh, je dors mal en ce moment. On donne d'autres noms au péché, comme chez l'auteur populaire Joyce Meyer. Faiblesse, défaut, erreur, ce qui est en dessous du meilleur, limitation, imperfection, gâchis. On diagnostique autrement, en situant ailleurs le vrai problème. Oh, je suis mal dans ma peau, c'est là le problème fondamental. Ou dans la théologie de Joyce Meyer, par exemple, c'est le manque d'optimisme qui peut particulièrement jouer. Mais Dieu n'est pas dupe. Notre fille Clara a 8 ans, mais si vous pouvez remonter en arrière de 5 ans et imaginer la fin d'une journée type chez nous à Bruxelles à cette époque-là. Myriam explique que c'est le moment, fin de la journée de Clara, le moment donc, où on fait on étudie la Bible et on prie ensemble en famille. Mais elle explique qu'il y a un petit problème. Les yeux pétillants. Hein. Nous avons perdu Clara. Clara, elle est en train de se cacher. Mais c'est juste un tantinet évident que cette masse en dessous de la couette correspond à Clara. Et cela d'autant plus qu'elle est en train de rigoler. Et peut-être qu'elle pense que nous n'arrivons pas à la voir parce qu'elle ne nous voit pas. Je ne sais pas si ça joue, mais en tout cas, c'est marrant, surtout pour elle. Mais lorsque nous jouons à ce type de jeu avec Dieu, ce n'est pas marrant. C'est pathétique, lamentable, absurde qu'on puisse imaginer que Dieu ne voit pas nos péchés. Nous ne pouvons pas fuir celui qui nous a créés. Nous avons affaire à celui qui sonde les reins et les cœurs. Lui connaît mieux que nous notre sentiment d'inculpation. Premier mot d'ordre, si nous voulons regagner le bonheur du pardon des péchés, soyons transparents dans la relation avec Dieu. Il faut être prêt à appeler un chat un chat. Si on a péché, on a péché. Et si j'ai péché, c'est ma faute. Si l'on persiste à essayer d'étouffer, d'oublier, de banaliser, de minimiser, dans certains cas, ce qui va se produire, c'est quelque chose d'analogue à l'expérience des versets 3 et 4. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. C'est très loin de vivre le bonheur du pardon des péchés. Là, c'est carrément physique. Ce n'est pas toujours comme ça lorsque nous avons la conscience troublée. Mais une conscience troublée peut priver de sommeil, saper l'appétit et dans certains cas, avoisiner la dépression avec tout ce que cela peut provoquer baisse des défenses immunitaires, migraines, problèmes de peau, et j'en passe. On peut être dans un état misérable. Il y a quelques années, un étudiant à l'Institut, la Sub-Bible de Bruxelles, là où je sers le Seigneur, avait quelque chose sur la conscience. C'était catastrophique pour son sommeil. Je ne suis pas en train de dire que chaque fois qu'on dort mal, qu'on est malade ou qu'on souffre, c'est à cause du péché. Loin de là, n'allons pas dans ce sens Will, t'es enrhumé? Qu'est-ce que tu as fait? Non. Mais, Proverbe 17, verset 22, un esprit abattu dessèche les eaux. Dans le psaume, David parle de ses forces qui étaient épuisées. Pas de vigueur, pas de tonus, pas d'énergie. Vous savez ce que ça peut donner, pas aujourd'hui, mais en été, lorsque vous avez été exposé à des températures de 36, 37, 38 degrés, et par moments, l'énergie vous fait défaut. Ça, c'est l'image qu'il donne. Nous n'avons rien à gagner en essayant de cacher nos péchés à Dieu. 1 Jean 1, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu menteur et sa parole n'est pas en nous. Premier mot d'ordre, la transparence. Les experts nous informent de ce que ce psaume était particulièrement chéri d'Augustin, le grand érudit du IVe siècle. Et Augustin a affirmé ceci. Le début de la connaissance, c'est se connaître en tant que pécheur. Si nous pouvons embrasser la transparence en matière de péché personnel, nous sommes en bonne voie dans notre quête de retrouver la joie du salut, car nous pouvons alors confesser la faute. Deuxième mot d'ordre, la confession. La confession. Confessons rapidement nos péchés à Dieu. Confessons rapidement nos péchés à Dieu. Lisons les versets 5 à 7. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as pardonné mon péché. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Oh, quel soulagement pour David lorsqu'il a reconnu sa faute devant Dieu. Le poids ôté, la peine enlevée, le vécu de l'intimité avec la relation avec Dieu, dans la relation restaurée et les chants de délivrance à nouveau dans sa bouche. Et ce n'est pas une joie qui dépend des circonstances. David est encore conscient des circonstances potentiellement menaçantes. Verset 6, de grandes eaux. Verset 7, la détresse qui peut survenir. David se sait protégé et entouré de chants de délivrance, quelle que soit la menace. Il en est de même pour nous qui vivons à l'époque où nous sommes de l'histoire du salut. Si nous soignons notre relation avec Dieu dans un sens, nous n'avons rien à craindre. La plus grande menace qui soit, pour ainsi dire les grandes eaux et la détresse que représente le jugement ultime, l'enfer, cette plus grande des menaces ne peut nous toucher si nous sommes en Christ. Et le savoir nous permet de vivre le bonheur du pardon de nos péchés, indépendamment de nos circonstances. Si tes circonstances durant la suite de 2020 devaient devenir difficiles, la grande consolation pour toi qui es croyante, croyant, c'est que ta joie peut rester intacte. Cette question a été posée à des croyants en Iran. Vous êtes exposés chaque jour au danger, mais voici chez vous tant de joie et de rire. Expliquez-moi pourquoi vous êtes si joyeux. Réponse de l'un d'entre eux. Lorsque je servais Allah, j'étais prêt à donner ma vie pour Allah, qui était un Dieu distant, peu rempli d'amour, violent. À combien plus forte raison devrais-je être prêt à donner ma vie pour Jéhovah, le Dieu de la Bible, qui est plein d'amour et intime. Et écrivain chrétien de commentaire ainsi, le plus grand malentendu de l'Église américaine, peut-être que nous pourrions ajouter Église européenne ou Église britannique, je ne sais pas, à vous de juger. Le plus grand malentendu, c'est que lorsqu'on vient faire connaissance avec les gens dans des nations où la liberté est restreinte, on pense qu'ils vont être vraiment déprimés à cause de la persécution. Et lorsqu'on s'assied avec eux, ils sont tellement joyeux et ravis, et ça se voit sur le visage des uns et des autres lorsqu'ils sont en train d'adorer Dieu, qu'ils ne sont absolument pas déprimés. L'entrave fondamentale pour vivre le bonheur du pardon du péché ce ne sont pas les circonstances, mais le péché. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à force de confesser le péché devant Dieu, la joie du salut revient. Et normalement, sans tarder, me semble-t-il, verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. » Le lien entre confession du péché et expérience du pardon est direct. Et David est tellement soucieux de communiquer à d'autres croyants ce principe. Verset 6. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Au moment convenable, je pense que l'idée là, c'est tant que l'occasion se présentera. Il ne faut pas tarder. Et donc, deuxième mot d'ordre, confession, mais confession immédiate. Je sais que certains dans nos milieux risquent d'avoir en tête, en entendant le mot confession, aller chez un prêtre dans un confessionnal, attendre le mot de l'absolution ou du pardon prononcé par le prêtre et le verdict concernant la pénitence. Rien de la sorte dans la Bible. La mort de Jésus nous permet d'avoir directement affaire à Dieu. Nous n'attendons pas le verdict d'un prêtre. En revanche, nous tournons les regards vers la croix. Et là, nous entendons le verdict. Pardonnez. Il ne s'agit pas de la confession pour gagner le pardon, mais de la confession pour vivre le pardon. La relation n'est jamais en cause si l'on est croyant, mais l'expérience de la relation l'est. Et ce n'est pas parce que la confession a été déformée dans le catholicisme qu'elle ne devrait pas figurer dans notre vie chrétienne. Je ne suis pas sans savoir que parfois la confession au plan vertical doit être accompagnée par la confession au plan horizontal, demander pardon à la personne que nous avons offensée, etc., blessée. Nous savons cela grâce au Nouveau Testament. Mais ce psaume parle de nommer spécifiquement le péché devant Dieu pour nous en repentir. Concrètement, cela pourrait ressembler à quoi de prendre ce psaume au sérieux? Écoutez ce témoignage d'un pasteur aux États-Unis. Quand je rassemble tous mes péchés et que je les confesse en masse, pardon pour tous mes péchés, ce n'est ni difficile, ni gênant. Mais si je prends chaque péché individuellement et que je le nomme, c'est tout à fait autre chose. Pour ma part, j'ai choisi de prendre chaque péché à part. Par exemple, je vais dire... Contexte américain, un pasteur qui compte le nombre de personnes dans son église. J'ai dit à un tel qu'il y avait 900 voitures sur le parking de l'église, alors qu'il n'y en avait que 600. C'était un mensonge, donc je suis un menteur. Je te demande pardon, parce que je suis un menteur. Ou bien, au lieu d'admettre que j'ai été un mauvais mari, je vais plutôt reconnaître, aujourd'hui, j'ai volontairement été égoïste, indifférent, insensible, c'était une attitude tout à fait délibérée. J'ai franchi la porte de la maison en pensant « ce soir, je ne vais pas l'aider. J'ai une journée difficile, je mérite bien mon repos. Seigneur, j'ai besoin de ton pardon parce que je suis égoïste. » Il continue. Je ne pense pas que beaucoup de chrétiens prennent la confession au sérieux. Si nous le faisions, nos vies seraient radicalement différentes. Quand on est parfaitement honnête avec soi-même et que l'on reconnaît ses péchés, quelque chose se passe. Lorsque pendant 5 jours, vous vous êtes traité de menteur, de cupide, de manipulateur ou de quoi que ce soit, vous vous dites « J'en ai marre d'admettre cela. Avec la puissance de Dieu, je veux éliminer ce péché de ma vie. » Voici un exemple de ce que ce psaume veut dire pour moi, et je pourrais illustrer jusqu'à la fin de la journée. Ce psaume a eu un impact significatif sur ma vie il y a quelques années, et je passe, et ça continue à être le cas, et je passe régulièrement par ces cases que je vous présente aujourd'hui. Je vais sélectionner un exemple qui remonte il y a quelques années, parce que c'est un exemple un peu instructif, amusant à certains égards. Ça va nous aider, mais je pourrais illustrer cela par quelque chose de plus récent aussi. Mais voici l'exemple que je choisis de vous livrer. Alors, vous vous souvenez de ce qui s'est produit en novembre, j'espère que j'ai le bon mois là, 2015, au Bataclan et ailleurs à Paris, donc les attentats. Et par la suite, immédiatement par la suite, peut-être que vous ignorez ça, vous avez oublié ça, mais il y a eu une période de couvre-feu à Bruxelles, et c'était nettement à l'ordre du jour. Et donc, nous avons décidé à l'Institut d'essayer d'aider nos amis, les personnes que nous servons, en écrivant un petit article pour juste préciser comment, en perspective biblique, réagir aux attentats de Paris. Et donc, on a rédigé un article qui s'intitulait quelque chose du genre 10 réactions saines bibliques à la suite des attentats. Et donc, on a diffusé ce texte aux amis de l'Institut. On a eu pas mal de retours qui étaient plutôt positifs. Ça a été apprécié comme démarche parce que les uns et les autres se sentaient un peu déboussolés. Comment réagir correctement pour glorifier Dieu, etc. Donc, ça a été apprécié. Mais un frère m'a écrit un email pour me dire grosso modo, je suis un peu déçu de voir que tu n'as pas mentionné Romains 13. Romains 13, verset 4. Donc, l'exercice de la discipline par l'État, et par les autorités, voici qui a donné un paragraphe pour expliquer pourquoi ça aurait dû figurer dans notre texte. Et je me suis dit, mais il se prend pour qui, ce gars? Il pense que je ne sais pas faire mon travail? Heureusement, par la grâce de Dieu, j'étais sur le point de prêcher sur ce psaume, en l'occurrence à Paris. C'était un vendredi. J'étais en train de préparer ça et heureusement donc, je savais ce qu'il fallait faire. Mais pendant ces instants, après avoir eu cette réaction, je me sentais vraiment mal à l'intérieur. Et je me suis dit, c'est pathétique, James. Quelle réaction de pure fierté face à ce que ce frère avait écrit. Et donc, je me suis repenti de cela, j'ai confessé cela, je suis passé donc par les deux premiers mots d'ordre que je vous présente aujourd'hui. Et quel soulagement, quel privilège pour le prédicateur de savoir que la vérité du psaume peut être vécu, et donc j'ai retrouvé la joie de mon salut. Et cela m'a libéré pour que je relise l'email rédigé par mon frère. Et vous savez, le frère avait parfaitement raison. Et du coup, et là encore, je fais appel un peu à votre mémoire pour que vous vous situiez dans la suite, parce qu'il y a eu quelques mois plus tard, je pense que c'était au mois de mars 2016, des attentats à Bruxelles. Ce qui a fait que c'était un peu normal que nous rediffusions ce texte, mais c'était un texte amélioré grâce à ce frère. Merci de comprendre ce que ce psaume n'affirme pas. Ce psaume n'affirme pas ceci. Si je veux connaître le bonheur du pardon, il me faudra repérer et nommer chaque péché dans ma vie, chaque jour, voire chaque heure, chercher dans tous les coins et les recoins de mon esprit, passer en revue chaque parole que j'ai exprimée ou pas exprimée, tout analyser et puis déceler les éléments de péché au sein de l'analyse, analyser l'analyse. Ce type d'introspection n'est pas à l'ordre du jour dans le psaume. Mais il me semble approprié qu'on passe régulièrement du temps devant Dieu pour promouvoir la transparence. Lui demander de montrer des péchés dont on est coupable, et là où on se sent inculpé, on doit traiter cela. Mais attention, on traite cela à la lumière de la parole de Dieu. La conscience n'est pas infaillible. Et parfois, on peut se sentir coupable à cause d'une pression humaine non biblique. Mais là où on est objectivement coupable au regard des Écritures, on passe tout de suite à la confession. Je pense à un moment où j'ai dû reprendre quelqu'un dans le cadre de mon travail, c'était quelqu'un de mûr, et j'ai pu apprécier cette maturité d'autant plus qu'il n'a pas hésité un instant à reconnaître sa faute. Ça m'a impressionné, même s'il pouvait comprendre que les conséquences de ce péché n'allaient pas être faciles à gérer pour lui. Confession rapide. C'est toujours la meilleure démarche. Proverbe 28, verset 13. Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. Il y a une vingtaine d'années maintenant, je faisais partie d'une communauté, je ne vais pas dire dans quel pays, ce n'est pas important. Et une croyante a confessé devant la communauté un péché sexuel. Je n'ai pas un souvenir suffisamment précis du déroulement de la confession, mais ce que je retiens, et cela pourrait paraître bizarre, c'est que c'était un témoignage à la fois choquant, bien sûr, mais aussi, en même temps, réjouissant. Ce n'est pas qu'elle ait minimisé la gravité de son péché, mais qu'elle se sentait soulagée. Ayant confessé, elle connaissait la paix, nous expliquait-elle. C'est comme si elle parlait à la manière de verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute, j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. Les conséquences de son péché étaient lourdes et allaient continuer à l'être. Mais elle se savait pardonner. Et dans un sens, c'est là ce qui primait. Deuxième mot d'ordre pour une vie chrétienne réjouissante en continu, la confession. Confessons rapidement nos péchés à Dieu. Un Jean encore, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime propitiatoire pour nos péchés. Il a tout pris en charge pour notre pardon. N'est-ce pas merveilleux? Et la porte reste ouverte pour que nous vivions cette merveille, si tant est que nous confessions nos péchés à Dieu. Mais, vous le savez bien, nettement mieux que de devoir confesser tel ou tel péché, c'est ne pas commettre tel ou tel péché au départ. Troisième mot d'ordre, la docilité. La docilité. Laissons-nous conduire sur le chemin de Dieu. Laissons-nous conduire sur le chemin de Dieu. On va lire les versets 8 à 10. t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne sois pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un mors et une bride dont on les orne, afin qu'ils ne te bousculent pas. Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant, et celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. L'appel, c'est à la docilité. Il laissait conduire par Dieu, à écouter son instruction. Verset 8. Lorsque nous entendons sa voix dans les Écritures en 2020, n'endurcissons pas notre cœur. Ne soyons pas comme le cheval rétif. Verset 9. Pour le cas où il y aurait des personnes dans cette salle qui ne sont pas propriétaires d'écuries et de chevaux, voici une autre image qui pourrait marcher également. J'étais dans le métro à Bruxelles et j'ai vu un enfant qui refusait de sortir à la station avec sa maman. Et la maman essayait de le pousser, mais il s'est braqué. Il était fort pour résister. Elle a fini par devoir le prendre dans ses bras, mais c'était chaud. C'était que de justesse à temps. Que Dieu nous donne d'être humble, soumis, docile devant sa parole, sa direction, sa conduite. Je connais les raisons pour lesquelles nous risquons de ne pas l'être. La peur du rejet si j'obéis dans ce domaine. La peur des conséquences si j'écoute la voix de Dieu dans cet autre domaine. La peur de l'inconnu lorsque je change de comportement. Que nous nous laissions instruire par ce psaume en ayant plutôt peur des dangers de l'obstination, versets 3 et 4, ayant peur d'être privés de l'expérience du bonheur qui devrait être le nôtre, du fait du pardon de nos péchés. Que nous puissions favoriser ce cercle vertueux. Lorsqu'on est transparent dans la relation avec Dieu, lorsqu'on confesse ses péchés devant Dieu, on a moins envie de pécher contre Dieu. On a plus envie de se laisser conduire par Dieu, d'obéir à sa voix dans les Écritures. Et avez-vous remarqué ce qui est particulièrement précieux dans ces versets? C'est vraisemblablement Dieu qui parle au verset 8 et 9, à David dans un premier temps, « Je t'instruirai ». Mais ce qu'il dit s'applique à tous les croyants qui passent par les mêmes étapes que lui. Et le fait de parler plus largement, ça se confirme au verset 9, où Dieu s'adresse à des personnes au pluriel, vous voyez. Il y a des avantages à étudier en français, hein, plutôt qu'en anglais. On ne verrait pas ça avec le « you, you ». Et le verset 8 est précieux. Parce que parfois, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous savons que le péché nous colle à la peau. J'étais en train de discuter avec quelqu'un hier matin lors du petit déjeuner qui m'a dit que cette personne disait qu'elle pensait qu'elle stagnait, qu'elle ne progressait pas du tout dans sa vie chrétienne. Et parfois, on peut avoir cette impression où parfois, on peut avoir l'impression que nous ne pouvons même pas continuer, que c'est juste trop difficile, la vie chrétienne. Mais, verset 8, Dieu a le regard sur nous. J'aurai le regard sur toi, vous voyez, fin du verset 8. Nous savons ce que ça veut dire. Même si ça peut être difficile pour nous de avoir une conversation par ici et avoir un regard sur un enfant qui est en train de se balader par là, Dieu n'a pas de difficulté de ce genre. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, il ne nous abandonne pas. Il continue à œuvrer en nous. Et parmi les preuves de cela, est justement le fait qu'il nous corrige. Le fait qu'il inculpe notre conscience. Le fait qu'il nous fait ressentir l'horreur de notre péché. Nous lisons dans les deux testaments. « Ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Fin du verset 10. Si notre confiance est placée en Dieu, nous sommes environnés de sa grâce ou sa bienveillance ou sa fidélité. C'est l'idée que Dieu reste indéfectible dans son engagement envers nous. Tu penses qu'il va te lâcher? Pas question. Et si jamais il y avait des personnes dans cette salle qui n'ont jamais eu affaire à Dieu, qui jusque-là n'ont jamais fait cas de Dieu, qui n'ont jamais connu le pardon des péchés, qui n'ont jamais eu un ami suffisamment fidèle ou courageux pour dire « Mais tiens, tu viens à l'église ou tu viens à des événements, mais tu n'as jamais donné d'indication comme quoi tu es en relation vivante avec Dieu. Tu te braques là devant l'idée de te rendre à Dieu ?» Alors, je ne connais pas tout le monde. Et si jamais c'était ton cas, je ne peux pas te proposer quelque consolation que ce soit à part de ce psaume. Je dois te rappeler les grandes eaux, la détresse, les douleurs qu'il évoque et qui s'appliqueront à toi. Il y a quelques années, en famille, nous étions au sud-ouest de l'Irlande en vacances et les vagues de l'Atlantique avaient emporté quelqu'un qui s'était aventuré un peu parmi les rochers, là où on était. Notre guide nous a montré l'endroit. Et c'est une image qui m'est restée dans la tête. Et c'est le genre d'image qu'on trouve dans ce psaume qui parle de ce qui attend la personne qui n'est pas en règle avec Dieu. C'est ton sort final. À moins de t'abriter en Jésus-Christ. Quand? Au moment convenable, au temps convenable, nous dit le psaume. Tant qu'il y aura la possibilité, maintenant, il ne faut pas tarder. Et cela passe par les mêmes mots d'ordre que nous avons notés. Transparence, confession, docilité. Et alors toi aussi, tu connaîtras le bonheur d'être en règle avec Dieu. Tu sauras aussi que les grandes zones ne vont pas déborder pour toi. Tu connaîtras la vie éternelle. Et toi, en ce jour, pour la première fois, que tu connaisses une joie profonde en Dieu et que tu sois mu avec nous toutes et tous qui passons par les mêmes mots d'ordre. Que nous soyons mus à vivre le verset 11. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Amen.